Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Audible Studio présente La Tour Sombre, tome 6, Le Chant de Susanna, de Stephen King, traduit de l'anglais par Marie de Prémonville, lu par Nicolas Justamont. À Tabby, qui a su quand c'était fini. Allez-vous-en, il existe d'autres mondes que ceci. John Jake Chambers. Je suis une jeune fille au chagrin éternel. J'ai eu des ennuis toute ma vie. Je suis condamnée à errer par le monde. Je n'ai pas d'amis pour m'indiquer le chemin. Chanson populaire. Appelons juste ce que Dieu décidera pour nous. Lee Fanger, Peace Like a River. 19. Reproduction. Premier couplet. Tremblement de rayon. 1. Combien de temps la magie durera-t-elle? Personne ne répondit à la question de Roland. Aussi la répéta-t-il. Cette fois-ci, il balaya du regard le salon du presbytère dans lequel était assis Enchik le Mani, en compagnie de Cantab, qui avait épousé l'une des nombreuses petites filles du patriarche. Les deux hommes se tenaient la main, comme il était d'usage chez les Mani. Le plus âgé venait de perdre une petite fille, mais nulle trace de douleur ne se lisait sur son visage de marbre à l'expression posée. À côté de Roland, ne tenant la main de personne, livide et silencieux, se trouvait Edidine. Et près de lui, assis en tailleur sur le sol, Jake Chambers. Il avait pris ôté sur ses genoux. Chose que Roland ne lui avait jamais vu faire auparavant. Et qu'il n'aurait jamais cru que le bafouilleux accepterait. Aussi bien Eddie que Jake étaient couverts de sang. Celui qui constellait la chemise de Jake appartenait à son ami Benny Slightman. Sur la chemise d'Eddie, c'était celui de Margaret Eisenhart. Jadis Margaret du clan du Sentier Rouge, feu la petite fille d'Enchik. Roland reconnut sur le visage d'Eddie et de Jake l'épuisement qu'il ressentait lui-même. Pourtant, il était certain qu'aucun d'eux ne prendrait de repos cette nuit-là. Au loin, montant de la ville, il entendait le crépitement des feux d'artifice, les chants et les cris de joie. Nulle joie pourtant ici. Benny et Margaret étaient morts et Susanna avait disparu. Enchik, dites-moi, je vous prie, combien de temps la magie durera-t-elle? Le vieil homme se caressa la barbe d'un air distrait. Pistolero, Roland, je ne peux le dire. La magie de la porte dans la grotte est au-delà de mon entendement, comme tu dois le savoir. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en vous fiant à ce que vous savez. Eddie leva les mains. Elles étaient sales, avec du sang jusque sous les ongles, et elles tremblaient.
Dites-le, Enchik!
Articula-t-il d'une voix humble et perdue que Roland ne lui avait jamais entendue.
« Dites-le-nous, je vous prie. »
Rosalita, la femme à tout faire du père Callahan, entra avec un plateau dans les mains. Des tasses étaient posées dessus ainsi qu'un pichet de café fumant. Elle au moins avait trouvé le temps d'échanger son jean et sa chemise poussiéreux contre une robe d'intérieur, mais à ses yeux, on voyait qu'elle était toujours en état de choc. Ils pointaient de leurs orbites comme de petits animaux aguets, passant la tête hors de leur terrier. Elle servit le café et fit passer les tasses sans un mot. Elle non plus n'était pas venue à bout de tout le sang, comme le constata Roland lorsqu'elle lui tendit son café. Le dos de sa main droite était zébré d'une traînée rouge. Le sang de Margaret, ou celui de Benny, il n'en savait rien, et il s'en moquait. Les loups avaient été vaincus. Peut-être reviendrait-il à Calabrinsturgis, ou peut-être pas. C'était l'affaire du cas. La leur, c'était Susanna Dean qui avait disparu après la bataille, en emportant la 13e noire avec elle. « Vous voulez parler du Caven ?» demanda Enchik. « Si fait, mon père, acquiesça Roland, de la persistance de la magie. » Le père Callahan prit une tasse de café en hochant la tête, avec un sourire distrait mais sans dire merci. Il avait très peu parlé depuis leur retour de la grotte. Sur ses genoux était posé un livre intitulé « Salem », écrit par un homme dont il n'avait jamais entendu parler. Il se présentait comme un ouvrage de fiction, mais lui, Donald Callahan, y était présent. Il avait vécu dans la ville dont parlait ce livre et pris part aux événements qu'il décrivait. Il avait jeté un œil au dos de l'ouvrage et à la photo de l'auteur sur le rabat, avec cette étrange certitude que ce serait son propre visage, son visage probablement tel qu'il était en 1975, quand toute cette histoire s'était produite. Mais il n'y avait trouvé aucune photo, rien qu'une notice biographique qui ne disait pas grand-chose. L'auteur vivait dans le Maine, il était marié. Il avait écrit un autre livre avant celui-ci, très bien accueilli par la critique, à en croire les extraits cités en quatrième de couverture. Plus la magie est puissante, plus elle dure longtemps, répondit Cantab, avant d'adresser à Enchik un regard interrogateur. Si fait, acquiesça ce dernier. « La magie et le glam ne font qu'un, et ils se déroulent à l'envers. » Il marqua une pause. « En remontant le temps, vous intuitez. Cette porte s'est ouverte sur de nombreux lieux et de nombreuses époques, dans le monde d'où viennent mes amis, » reprit Roland. « Je voudrais qu'elle s'ouvre à nouveau, mais seulement sur les deux derniers. » Les deux plus récents. Est-ce faisable? Ils laissèrent Enchik et Cantab réfléchir à la question. Les Mani étaient de grands voyageurs. S'il y avait quelqu'un pour savoir, pour accomplir ce que Roland voulait, ce qu'ils voulaient tous, ce serait ce peuple. Cantab s'inclina respectueusement vers le vieil homme. Le Dean de Cala du Sentier Rouge. Il lui murmura quelque chose. Enchik l'écouta, le visage impassible, puis lui fit tourner la tête d'une main noueuse et ridée, et chuchota à son tour à son oreille. Eddie ne tenait pas en place, et Roland sentait bien qu'il était sur le point de perdre pied, peut-être de se mettre à hurler. Il posa la main sur l'épaule du jeune homme afin de le retenir, et Eddie retrouva son calme, pour l'instant du moins. L'échange à voix basse se poursuivit pendant environ 5 minutes, les tenant tous en haleine. Roland avait du mal à supporter les manifestations de joie qui éclataient au loin. Il n'osait imaginer l'effet qu'elles produisaient sur Eddie. Henchik finit par tapoter la joue de Cantab et se tourna vers Roland.
« Nous pensons que c'est faisable, » dit-il.
« Dieu merci !»
marmonna Eddie. Puis à voix haute,
« Dieu merci, allons-y, on pourra vous retrouver sur la route de l'Est. »
Les deux hommes barbus se mirent à secouer la tête. Henchik d'un air triste et sévère, Cantab avec une expression presque horrifiée.
« Pas question d'aller à la grotte des voix dans le noir, »
asséna Henchik.
« Il le faut !»
explosa Eddie.
« Vous ne comprenez pas. La question n'est pas seulement de savoir combien de temps la magie durera. Il y a aussi la question du temps qui passe de l'autre côté. Il va plus vite, là-bas, et impossible de revenir en arrière. Bon Dieu, Susanna est peut-être en train d'accoucher en ce moment même, et si c'est bien d'une espèce de cannibale...
« Écoutez-moi, jeune homme, » répliqua Henchik, « et entendez-moi bien, je vous prie. Le jour se fait vieux. »
Il disait vrai. Jamais de toute sa vie, Roland n'avait vu une journée lui filer aussi rapidement entre les doigts. Elle avait commencé par la bataille avec les loups, peu après l'aube, puis... il y avait eu les réjouissances de la victoire et les larmes du deuil. Bien que leurs pertes humaines fussent incroyablement réduites, là, sur la route. Ils étaient revenus à la réalité en prenant conscience de la disparition de Susanna. Ils avaient suivi le sentier jusqu'à la grotte et ils y avaient fait des découvertes. Le temps pour eux de retourner sur le champ de bataille de la route de l'Est, il était plus de midi. La plupart des villageois étaient partis, ramenant triomphalement chez eux leurs enfants sains et saufs. Henchik avait volontiers accepté de tenir cette palabre, mais quand ils étaient arrivés au presbytère, le soleil avait déjà basculé du mauvais côté du ciel.
« On va peut-être réussir à prendre une nuit de sommeil, finalement, »
se dit Roland, sans savoir s'il devait s'en réjouir ou s'en attrister. Ce qu'il savait, en revanche, c'est qu'un peu de repos ne lui aurait pas fait de mal.
« J'écoute et j'entends !»
acquiesça Eddie. Mais Roland n'avait pas retiré la main de son épaule et il sentait le jeune homme trembler.
« Même si nous étions d'accord pour y aller, nous ne pourrions convaincre assez d'hommes de nous accompagner, » ajouta Henchik.
« Vous êtes l'ordine. »
« Si fait, c'est ainsi que vous dites. Et je suppose que vous dites vrai, bien que ce ne soit pas notre terme à nous. Intuitez bien. Il me suivrait en toutes choses ou presque. » Et ils mesurent la dette qu'ils ont envers votre catette, au-delà de cette simple journée, et ils vous diraient grand merci de toutes les manières possibles. Mais pas en prenant à la nuit tombée le sentier qui mène à ce lieu hanté. »
Henchik secouait la tête lentement, d'un air catégorique.
« Non. » « Voilà une chose qu'il ne ferait pas. Écoutez, jeune homme, Cantab et moi pouvons être rentrés au Kraten du Sentier Rouge bien avant la nuit noire. Là, nous convoquerons nos semblables au Tempa, ce qui, chez nous, est l'équivalent de la salle du conseil pour les oublieux. »
Il jeta un regard furtif à Callahan.
« Grand pardon si le terme vous offense, père. »
Callahan hocha la tête d'un air distrait, sans lever les yeux de son livre, qu'il tournait et retournait entre ses mains. L'ouvrage était protégé par une couverture plastifiée, comme le sont souvent les premières éditions. Sur la page de garde, on pouvait lire le prix, inscrit d'un trait léger au crayon à papier. $950. Le deuxième roman d'un jeune homme un illustre inconnu. Le père se demandait ce qui lui donnait tant de valeur. S'il croisait le propriétaire de la librairie, un certain Calvin Tower, il ne manquerait pas de lui poser la question. Et ce ne serait que la première d'une longue série.
« Nous leur expliquerons ce que tu attends d'eux, et nous demanderons des volontaires. Sur les 68 hommes que compte le Kraten du Sentier Rouge, je parie que seuls 4 ou 5 refuseront de vous prêter main forte et d'unir leurs forces aux vôtres, ce qui fera un kef très puissant. C'est ainsi que vous le dites, le kef, le partage ?»
« Oui, » confirma Roland. « Le partage de l'eau, voilà ce que nous disons. »
« On ne pourrait pas faire entrer autant de monde dans cette grotte, »
intervint Jake.
« Même en en mettant une moitié sur les épaules de l'autre moitié. »
« Ce ne sera pas la peine, » répondit Enchik. « Nous mettrons à l'intérieur les plus forts. » Ceux que nous appelons les émissaires. Les autres s'aligneront sur le sentier, main dans la main, pendule contre pendule. Ils y seront avant que le soleil atteigne la ligne des toits demain matin. J'en jurerai par ma montre et mon billet.
Il nous faudra la nuit pour rassembler nos aimants et nos pendules, de toute façon, ajouta Cantab.
Il regardait Eddie avec l'air de s'excuser, de la peur dans le regard. Il était évident que le jeune homme souffrait atrocement. Et c'était un pistolero. Un pistolero pouvait frapper, et lorsque cela se produisait, ce n'était jamais à l'aveuglette.
« Il sera peut-être trop tard, »
fit Eddie d'une voix éteinte. Il posa sur Roland ses yeux noisettes. Ils étaient injectés de sang et noirs d'épuisement.
« Demain, il sera peut-être trop tard, à supposer que la magie n'ait pas disparu. »
Roland ouvrit la bouche et Eddie le mit en garde en levant l'index.
« Ne me parle pas du cas, Roland. Si tu prononces encore une fois le mot cas, je te jure que ma tête va exploser. »
Roland referma la bouche. Eddie se retourna vers les deux hommes barbus, vêtus de leurs longues capes sombres de Quakers.
« Et vous ne pouvez pas jurer que la magie sera encore là, n'est-ce pas? Ce qui est sans doute encore ouvert ce soir sera peut-être fermé pour toujours sur nous demain. Et tous les aimants et les pendules de plomb de tous les manies de la création ne pourront plus le rouvrir. »
« Si fait, » reconnut Enchik. « Mais... « Ta femme a emporté le cristal magique, et quoi que tu en penses, l'entre-deux-mondes et les terres frontalières se trouvent bien soulagés d'en être débarrassés. »«
Je vendrai mon âme pour le tenir entre mes mains en ce moment même !»
lâcha Eddie d'une voix claire. Ils eurent tous l'air choqués par cette affirmation. Même Jake. Et Roland ressentit une forte envie d'ordonner à Eddie de retirer ce qu'il venait de dire, de se rétracter immédiatement. Des forces puissantes œuvraient contre leur quête de la tour, des forces obscures, et la 13e noire était leur sigle le plus évident. Tout dépendait des mains dans lesquelles ces forces tombaient. Et les cristaux de l'arc-en-ciel du magicien possédaient un glam maléfique qui leur était propre. La noire plus que tous les autres, peut-être même que tous les autres réunis. Roland se disait que, même s'il l'avait eue entre les mains, il aurait fait l'impossible pour la garder hors de portée d'Eddie. Vu l'état de chagrin dément dans lequel le jeune homme se trouvait, il ne faudrait pas plus de quelques secondes au cristal pour le détruire ou en faire son esclave.
Les pierres pourraient boire si elles avaient une bouche, dit sèchement Rossa,
les faisant tous sursauter.
Eddie, sans même tenir compte de la magie, visualisez le sentier qui mène à la grotte. Puis imaginez-vous 5 ou 6 douzaines d'hommes, dont la plupart aussi âgés que le vieil Enchik lui-même, dont 2 ou 3 aussi aveugles que des chauves-souris essayant de le gravir en pleine nuit.
« Et le rocher ?»
renchérit Jake.
« Rappelle-toi ce rocher contre lequel il faut se glisser, avec les pieds pendant au-dessus du vide ?»
À contre-cœur, Eddie hocha la tête. Roland le vit lutter pour accepter ce qu'il ne pouvait changer, pour retrouver la raison presque à tâtons. « Susanna Dean est un pistolero, elle aussi, » dit Roland. « Il se peut qu'elle réussisse à s'en tirer toute seule pendant un moment. »
« Je ne crois pas que Susanna puisse encore faire quoi que ce soit, » répliqua Eddie.
« Et toi-même, tu ne le crois pas. Après tout, c'est l'enfant de Mia, et c'est Mia qui commande jusqu'à la naissance du bébé, du petit gars. »
Roland eut alors une intuition, et comme beaucoup de celles qu'il avait eues par le passé, elle se révéla exacte. Elle était peut-être aux commandes en partant, mais rien ne prouve qu'elle ait pu le rester. Callahan finit par lever les yeux du livre qui l'absorbait tant.
« Pourquoi ça ?»«
Parce que ce n'est pas son monde, » répondit Roland. « C'est celui de Susanna. Si elle ne trouve pas le moyen de fonctionner ensemble, elle pourrait bien mourir ensemble. »